vais d'abord faire une petite courte présentation. Je suis chercheur au CNRS et j'étudie la biologie évolutive, qui est en fait une façon de comprendre le monde vivant à partir de l'étude de l'évolution, de la sélection naturelle et de l'adaptation. Et particulièrement, je me suis spécialisé en biologie évolutive humaine, c'est-à-dire appliquer tous ces concepts à l'espèce humaine pour voir qu'est-ce qu'on peut comprendre. Alors donc, j'ai fait ce livre de vulgarisation. Alors, pour essentiellement trois raisons. Donc, je pense qu'il est important de vulgariser sur des sujets qui sont politiquement incorrects. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on parle de ces sujets, ce n'est pas la science qui va prédominer, mais ça va être une idéologie. Et donc, on va dire des choses fausses. Il y a plein de sujets politiquement incorrects, et je pense que quand on a des choses scientifiques à dire sur ces sujets-là, eh ben, il faut les dire, il faut les vulgariser. La deuxième raison pour vulgariser, donc j'ai donné un exemple de sujet politiquement incorrect. Par exemple, tout le monde pense que c'est l'environnement familial et social qui permet de faire la différence entre hommes et femmes au niveau cognitif, par exemple. Tout le monde pense que c'est d'origine familiale ou sociale, notre type de personnalité et les préférences sexuelles, être par exemple hétérosexuel ou homosexuel. Freud a commencé par le dire le premier, c'est la mère, c'est la famille. C'est en aucun cas, ou très très peu, les gènes ou les aspects biologiques. Donc ça, c'est ce qu'il est politiquement correct de dire, que c'est uniquement la famille et les aspects sociaux qui déterminent ce genre de choses. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est pour ça que... Alors pourquoi ça marche pas? Voilà. C'est pour ça qu'il y a un chapitre sur les différences hommes-femmes, y compris les différences cognitives, et un chapitre sur les préférences sexuelles, et j'y reviendrai pour expliquer plus en détail. Qu'en est-il de l'homosexualité pour ce schéma-là? Il y a aussi un chapitre sur l'environnement familial. Qu'est-ce que l'environnement familial va changer? Qu'est-ce qu'il apporte aux enfants? Et donc, c'est une manière un petit peu... c'est une manière un petit peu nouvelle de présenter ce qui se passe dans la famille. J'y reviendrai. La deuxième raison importante pour vulgariser, c'est qu'il y a des sujets qui sont sous l'influence d'intérêts divergents. Alors, un exemple, c'est l'alimentation. On voudrait tous avoir une alimentation adéquate pour chacun d'entre nous. Mais actuellement, l'alimentation est principalement contrôlée par les firmes agroalimentaires. Notre alimentation détermine un peu notre santé. Je reviendrai sur cet aspect-là. Les firmes agroalimentaires ne sont pas intéressées directement par notre santé. Il y a donc un conflit entre ces deux intérêts. Étant donné l'épidémie ou la crise d'obésité qui est actuellement, ça indiquerait que dans ce conflit, les firmes agroalimentaires sont en train un peu de gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la définition de l'alimentation adéquate va être déterminée en grande partie par les firmes agroalimentaires, et que si vous cherchez à savoir quelle est l'alimentation adéquate qui vous convient, ça va être extrêmement dur, et en consultant les médias, c'est pratiquement impossible de s'y retrouver, tout est contradictoire. Et ça provient de ce conflit pour la définition d'une alimentation. Donc c'est pour ça que j'ai un chapitre sur l'alimentation, afin de regarder un peu de haut exactement ce qu'il en est. Enfin, la troisième raison pour vulgariser, c'est qu'il y a des sujets qui sont peu connus du public. Donc par exemple, si je vous dis médecine darwinienne ou histoire darwinienne, probablement vous n'en avez pas entendu parler. Et donc il y a un chapitre pour chacune de ces notions qui sont un peu des nouveautés dans le monde anglo-saxon, très peu en France, très intéressantes pour mieux comprendre la médecine, et ça a quelques applications d'ailleurs. Donc voilà un peu les trois raisons pour vulgariser certaines connaissances et les présenter sous forme de livre. Donc là, c'est les différents chapitres, donc un chapitre sur l'alimentation, sur la médecine darwinienne, sur l'histoire darwinienne, sur les différences hommes-femmes, l'homosexualité et l'écologie familiale. Alors maintenant, je vais vous présenter succinctement un peu chacun des chapitres. Mais auparavant, je vais vous montrer quelle méthode j'ai employée pour aborder un peu ces thèmes. Alors, voilà. Clac. Alors, ce qui est important à chaque fois, c'est de regarder exactement quels sont les enjeux. Alors, je vais illustrer un peu les méthodes en vous parlant de l'alimentation. On a déjà vu qu'il y avait un enjeu pour savoir ce qu'était qu'une alimentation adéquate entre l'intérêt de l'individu et l'intérêt des firmes agroalimentaires qui contrôlent un peu toute la commercialisation de l'alimentation. Et un autre type d'enjeu qui provient du néolithique quand l'homme a commencé à domestiquer les plantes. Alors, donc c'est à peu près, ça a commencé il y a 10 000 ans. Et par exemple, ici, vous avez l'ancêtre du blé. Donc il y a eu plusieurs siècles, millénaires de domestication, et ça a donné le blé actuel. Alors, cette plante, ancêtre du blé, comme toutes les plantes, elle se défend des herbivores. Elle ne peut pas se déplacer, et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Il y a eu une sélection naturelle pour que toutes les plantes ont des produits toxiques qui les protègent des prédateurs. Et bon, c'est vrai pour toutes les plantes. Et donc, ces produits toxiques sont différents suivant les plantes et suivant les familles de plantes. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de la domestication ? Il y a eu deux possibilités pour ces produits toxiques. L'homme, pour certains cas, a retenu les plantes les moins toxiques. Et il y a eu une sélection pour avoir des plantes de moins en moins toxiques. Donc maintenant, certaines de nos plantes domestiquées que l'on mange, par exemple la tomate, il n'y a plus tellement de produits toxiques à l'intérieur. Or, toutes les plantes proches de la tomate sont extrêmement toxiques et sont immangeables par nous. Voilà, l'exemple, la tomate, les produits toxiques ont été éliminés au cours de la domestication. Il y a une autre possibilité, c'est que l'homme lui-même développe des résistances à ces produits toxiques. Alors, donc s'il développe des résistances, on a donc une adaptation au moment de la domestication de l'homme. Alors, cette adaptation peut être culturelle. Par exemple, la cuisson peut éliminer certains produits toxiques. Une pomme de terre crue, elle est pas mangeable, il y a des solanines, il y a des tas de saloperies dedans, mais au cours de la cuisson, ces produits sont éliminés. Elle peut être aussi d'ordre génétique. C'est-à-dire que nos gènes se sont adaptés petit à petit et on est devenu résistant à ces produits toxiques. Alors, c'est une situation très intéressante parce que forcément, ça va faire des adaptations locales. Cette résistance n'existe que à l'endroit où la plante a été domestiquée. Donc voilà, j'en dis pas plus là-dessus, c'est un type d'enjeu un peu évolutif, mais vous allez voir les conséquences de ça sur les conséquences actuelles que ça peut avoir. C'est des considérations qu'on voit rarement dans les médias, ce genre de processus. Alors, la deuxième méthode, c'est d'étudier la variation. Et la variation peut se étudier à différentes échelles. Alors, à propos de l'alimentation, on va d'abord regarder au niveau interspécifique. Bon, au niveau interspécifique, les lions sont carnivores, les gorilles mangent des feuilles et des fruits. Donc chaque animal a son régime alimentaire, comme l'homme a son régime alimentaire. Par contre, si jamais vous changez de régime alimentaire, que vous forcez un peu un lion à manger comme un herbivore et le gorille à manger comme un carnivore, eh ben, vous allez voir que l'animal va devenir malade rapidement et probablement il va mourir. Quand on change de régime alimentaire auquel on est adapté, cela crée des problèmes de santé. Et vous allez voir les conséquences de ça quand on va analyser les changements du régime alimentaire chez l'homme qu'il y a eu. Donc, quand on regarde à une échelle large au niveau des espèces, on voit que chaque espèce est adaptée à son régime alimentaire. Donc, là, voilà le lien entre régime alimentaire et santé. Maintenant, regardons au niveau géographique. On va revenir sur cet exemple de la domestication des plantes. Cette domestication des plantes a eu lieu à peu près en même temps, donc après la glaciation, dans différentes régions du monde, indépendamment. Alors par exemple, voilà, le maïs et le haricot ont été domestiqués en Amérique centrale, le tournesol en Amérique du Nord. Alors nous, on a domestiqué plein de plantes, dont le blé, l'anti-orge dans le croissant fertile. Voilà, soja riz en Chine, igname taro en Asie du Sud-Est, pommes de terre, haricots, manioc, quinoa en Amérique du Sud. Remarquez que le haricot a été deux fois indépendamment a été domestiqué dans deux endroits différents. Pareil pour le riz, a été domestiqué au moins deux fois, sûrement une troisième fois. Donc, on voit qu'il y a eu des domestications indépendantes. Maintenant, qu'est-il devenu de ces composés toxiques qu'il y avait dans ces plantes ? Certains ont été éliminés, d'autres pas. On trouve encore des composés qui ne sont pas terribles chez la quinoa. La quinoa était la plante essentielle des Incas. Et actuellement, ce n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 2 ans à cause des saponines. Dans le blé, il y a des lectines qui font plein de choses dans l'intestin. Dans le soja, il y a la génistéine qui imite une hormone femelle, ce qui fait que ce n'est pas très conseillé aux hommes de manger de la quinoa, du soja en grande quantité, pour des raisons qui se comprennent, etc. Donc, on peut se poser la question, je reviens, on peut se poser la question, si maintenant, toutes ces plantes domestiquées, on les bouge à cause de la mondialisation un peu partout, eh ben, on va manger des plantes auxquelles peut-être on n'est pas adapté. Et que si les Incas mangeaient abondamment de la quinoa, peut-être qu'ils avaient développé des résistances à la saponine, et pour nous, on n'a jamais été exposé à la quinoa avant. Même raisonnement pour le soja, où les Asiatiques mangent du soja et donc sont adaptés à la génistéine depuis très longtemps, et c'est probablement un facteur protecteur même du cancer en Asie. Actuellement, si les Européens mangent du soja, quel est l'effet de la génistéine ? Pour l'instant, on ne peut pas dire si c'est un effet négatif ou pas. Mais il est très possible que c'en ait un à cause de ce phénomène d'adaptation locale, qui est évident ici, mais qui est très peu mentionné par les gens qui s'occupent de ça. Donc ça, c'est l'échelle géographique. Maintenant, regardons à l'échelle historique, toujours sur l'alimentation, hein, qui est pris comme exemple. On a un changement alimentaire récent. Il y a eu deux grands changements alimentaires chez l'homme, un au néolithique, je ne m'étale pas là-dessus. Le deuxième, c'est un peu la révolution industrielle, et en particulier, ça a amené des quantités massives de sucre dans notre alimentation. Actuellement, en moyenne, le sucre qu'on consomme, c'est 20 morceaux de sucre par jour, par personne, qui se camoufle dans les sodas, dans les plats, dans les desserts, etc. Or, le sucre, en grosse quantité, et là, la médecine donne exactement tous les intermédiaires entre la prise de sucre qui fait une hyperglycémie, une hyperinsulémie, qui interagit avec l'hormone de croissance, et alors ça, l'hormone de croissance interagit avec tout. L'acné, par exemple, l'acné juvénile, est uniquement due à l'alimentation. Le mot n'existait pas avant, et au XVIIIe siècle, l'acné n'existait pas. Dans les sociétés traditionnelles, où l'alimentation n'est pas changée, où il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'acné, même chez les adolescents. La myopie, diabète de type 2, ça s'appelle le syndrome X, tellement la liste de choses qui sont la conséquence de l'alimentation en sucre est grande. Donc là, en plus, on a toutes les explications médicales entre ce sucre qui est nouveau dans notre alimentation et un certain nombre de problèmes de santé. Donc voilà pour la variation. En gros, quand on a une vision un peu à ces trois échelles, ça donne un cadre explicatif pour comprendre les phénomènes qui est sûrement plus intéressant. Voilà, pour un peu comprendre vraiment ce qui se passe, quoi. Bon, le dernier point de méthode, c'est que bon, j'ai fait une approche scientifique, hein, ça c'est un biais professionnel, où tous les faits qui sont relatés sont basés sur des études scientifiques publiées, et toutes les sources sont indiquées. Donc ça ne veut pas dire que ce qui est mis, c'est la vérité, hein, puisque la science évolue, mais au moins ça donne la base pour vérifier sur quoi tout est appuyé. Bon, alors maintenant, je vais faire une présentation succincte un peu de chacun des chapitres pour donner un petit peu un aperçu. Bon, alors, pas sur celui-là, parce que j'en ai un peu parlé déjà. Alors maintenant, chapitre 2, c'est un peu une introduction à la médecine évolutive. Alors, la médecine darwinienne considère que notre corps n'est pas parfait. Il n'est pas parfait pour plein de raisons, et en particulier parce qu'il existe des compromis. Il n'est pas parfait parce que tous, on a déjà été malade. Donc, notre corps se fait envahir des fois par des virus et bactéries. Il vieillit. En fait, il y a des compromis parce que on ne peut pas optimiser toutes les fonctions en même temps. Donc forcément, on ne va pas optimiser une très forte longévité parce que ça va diminuer la reproduction, ça va diminuer la résistance aux maladies, etc. Et on a un compromis un peu entre tout ça. Ça, c'est un peu la vision évolutive qui nous donne cette vision un peu de notre corps. D'autre part, la médecine est un trait culturel qui a une origine, par exemple, seulement très ancienne. On voit une proto-médecine chez les chimpanzés et ils utilisent des plantes contre la malaria, contre les diarrhées. Et dans un certain endroit en Afrique, la même plante est utilisée par les Africains locaux et par les chimpanzés pour les diarrhées. Donc probablement la médecine a une origine vraiment très lointaine. Et elle a évolué avec des interactions sociales. Elle modifie les sélections. Alors on pense qu'elle les supprime. Non, elle ne supprime pas les sélections. Elle les dirige vers d'autres directions. Et elle a des limitations historiques. Par exemple, la connaissance de la médecine n'est pas la même pour tout. Par exemple, la chirurgie externe est bien plus avancée que la chirurgie interne, parce qu'elle a goût. La médecine a eu plus d'occasions d'expérimenter sur les organes externes. Et je parlerai tout à l'heure d'un endroit où la médecine actuelle est la moins performante. Alors, la médecine actuelle, elle n'est pas optimale. Bon, il ne faut pas la dénigrer, elle est quand même fantastique. Mais elle n'est pas optimale parce que quand on regarde en arrière, on voit qu'elle a fait des erreurs dans le passé. Et ça, à tout moment, on voit qu'elle a fait des erreurs. Ça veut dire que plus tard, dans 20 ans, quand ils vont regarder maintenant, ils vont voir aussi des erreurs. C'est normal, elles continuent à progresser. Donc l'idée, c'est de dire, mais voilà, est-ce qu'il y aurait un moyen pour essayer d'anticiper un peu ces erreurs? Alors c'est ce qu'essaye de faire un peu la médecine darwinienne avec de nouveaux concepts. Alors je vais donner un exemple. Alors j'ai pris un exemple simple. Clac. J'ai pris le cas où un individu tombe malade. Donc voilà, il y a un parasite qui arrive et la personne devient malade. Elle exprime des symptômes. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir à quoi correspondent ces symptômes. L'exemple, par exemple, du chien qui devient enragé. Donc il y a un virus. Il se met à saliver, il devient agressif. Donc c'est les symptômes de la rage. À quoi correspondent ces symptômes? En fait, on sait très bien que ces symptômes, c'est une manipulation du virus pour augmenter sa propre reproduction. Le virus qui est dans le cerveau, il va manipuler le chien pour le faire saliver, donc il y aura plein de virus qui vont être transmis, va le rendre agressif pour, par morsure, transmettre le virus. Donc si vous supprimez le symptôme, vous n'allez pas guérir le chien, parce que comprendre pourquoi il est malade, c'est comprendre comment le virus manipule le cerveau et... Bon, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ce symptôme est une manipulation du virus. Maintenant, il existe des symptômes qui ne sont pas des manipulations du virus, qui sont au contraire des adaptations de l'organisme pour se défendre. Par exemple, le système immunitaire qui se met en route, c'est une adaptation. Et ce qu'il est essentiel, c'est de savoir, entre les deux, si le symptôme qu'on voit est une manipulation ou une défense. Alors par exemple, voilà, différents symptômes, la fièvre, est-ce que c'est une adaptation pour mieux se défendre du virus ou de la bactérie, ou est-ce que c'est une manipulation du parasite pour mieux se reproduire? C'est fondamental de répondre à la question, parce que si jamais on décide de supprimer le symptôme, si jamais c'est une adaptation, on se met dans une posture un peu mauvaise. Donc, la fièvre, c'est une adaptation. Mais il y a des choses, c'est pas évident. La diarrhée, est-ce que c'est une adaptation? Est-ce que par une diarrhée, si c'est une bactérie, elle va plus se répandre par diarrhée, mais par diarrhée, on l'élimine. Donc, c'est pas évident de savoir si c'est une manipulation ou une. Donc, il y a des expériences qui ont été faites dans certains cas. Bon, alors, je vais pas vous donner un peu toutes les solutions, mais là c'est un peu le concept pour vous dire que cette façon de raisonner, on commence à la voir maintenant dans les médecins actuels, voilà, mais il n'y a pas si longtemps que c'est vraiment apparu ça. Donc là c'est quelque chose qui commence un peu à pénétrer dans la médecine. C'est pas complètement encore devenu une habitude. Hein. Donc voilà, c'est une nouvelle façon un peu de voir les choses pour vraiment comprendre ce qui se passe. Alors maintenant, j'ai fait le parallèle un peu exprès. Une femme saine qui devient enceinte, là c'est pas un paradis, c'est un embryon. J'ai fait ce parallèle parce que souvent la médecine considère que la femme enceinte est malade. La femme enceinte, elle a des symptômes. Alors les symptômes, par exemple, elle a des nausées. Je crois que c'est 40-50% des femmes qui ont des nausées dans les 3 premiers mois. Il y a plein d'autres symptômes, voilà, le fer plasmatique qui diminuait. Et actuellement, hein, sauf erreur de ma part, actuellement, les médecins considèrent que ce sont un mauvais fonctionnement. C'est un mauvais fonctionnement. Et donc en général, ben voilà, on donne des médicaments pour supprimer les nausées. Bon, alors des fois, il y a eu des loupés, hein, la thalidomide, c'était pour supprimer les nausées. Et encore actuellement, quand le fer plasmatique diminue, eh ben on supplémente la femme enceinte en fer. Bon, d'après toute la littérature actuelle scientifique, ces deux-là en particulier seraient des adaptations. C'est ce que j'explique bien en détail. Et en fait, tout ce qui concerne la femme enceinte, c'est probablement le domaine de la médecine qui est le moins bien compris actuellement. Pourquoi ? Parce que c'était des affaires de femmes traditionnellement. Et que la médecine, donc des affaires d'hommes, ont commencé à prendre ça petit à petit, à partir du 19e, et cette médecine n'a pas fini de comprendre encore tous les tenants et aboutissants qu'il y avait dans cette interaction assez complexe. Donc il y a pas mal d'exemples dans le livre autour de la femme enceinte qui montrent qu'il y a un peu une déconnexion entre ce qu'on pense être des adaptations et ce que fait la médecine actuellement. Voilà, donc c'était juste un petit flash pour vous montrer sur ce chapitre de médecine darwinienne le principe de raisonnement et d'analyse qu'on peut faire pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, chapitre suivant, c'est un peu une petite introduction à ce qu'on appelle l'histoire darwinienne. Alors, le constat est simple. La reproduction est un enjeu essentiel dans le monde vivant. Qu'en est-il chez l'homme ? Et en général, dans les manuels d'histoire, pour essayer de comprendre un peu l'histoire humaine, eh bien, on parle très peu de la reproduction. Alors, c'est un sujet politiquement incorrect hein, de parler de la reproduction, surtout de la reproduction différentielle. Donc ça, c'est Laura Betzig, une historienne darwinienne américaine, qui a écrit ce livre, « Despotisme et reproduction différentielle, une vue darwinienne de l'histoire ». Alors, en gros, l'idée, c'est quoi ? Dès que quelqu'un a du pouvoir, il va accumuler les richesses. Alors, l'accumulation de richesses, c'est quelque chose qui est récent. Ça a démarré au néolithique. Avant, on ne pouvait pas accumuler de richesses. On avait une carcasse de mammouth, elle se décomposait. Dès qu'il y a l'agriculture avec des grains, on peut stocker les grains. Et donc, on peut devenir plus riche que quelqu'un d'autre. Et les grands États ont commencé au moment de l'agriculture. On accumule des richesses, mais à chaque fois que les gens ont accumulé des richesses, ils ont aussi accumulé des femmes. Dans des proportions colossales en fonction de leur puissance. Toutes les grandes civilisations, les puissants avaient des harems énormes. Alors je vais donner un exemple ridicule, mais qui est récent. C'est l'exemple de l'empereur du Maroc. Il est récent, voilà, 17e, 18e siècle. Il avait un harem de 500 femmes, toutes très jeunes, inférieures à 30 ans. Bon, il était marié à 4 femmes, ça c'était sa religion qui l'imposait, mais il avait un harem de 500 femmes. Et évidemment, cette accumulation exclusive de femmes, c'est pour la reproduction. Et cet empereur particulier est crédité de plus de 880 enfants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a une telle différence, ça veut dire qu'il y avait plein d'hommes qui n'avaient pas accès à des femmes. Bon, il n'était pas le seul au Maroc, hein, je veux dire, L'empereur, il y a peut-être 500 femmes, mais ceux qui étaient juste dessous, ils avaient aussi des harems, etc. Ce qui fait que quand on était paysan de base, pour avoir une femme, c'était pas évident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, il y a une transition entre polygamie et monogamie dans l'espèce humaine. La polygamie, c'est 80% des sociétés. Donc la monogamie, c'est quelque chose de récent et vraiment très peu répandu. De toute façon, historiquement, à la base, c'était la polygamie. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on a une polygamie de cet ordre-là, c'est forcément un régime despotique. On ne peut pas monopoliser un grand nombre de femmes comme ça sans l'interdire à plein d'autres qui ne vont pas être d'accord. Donc on impose. Et le despotisme associé à cette reproduction différentielle était extrêmement fort. Et en fait, il y a un lien historique et nécessaire entre la polygamie et le despotisme. Forcément, si on accapare des femmes qui est vue comme une ressource ici, c'est une vue très mal orientée de manière masculine, mais historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, il y a un lien entre le régime de reproduction et le régime politique. Et en fait, il y a d'ailleurs une définition de la démocratie en fonction de la reproduction qui est très intéressante, hein, qui est un peu esquissée dans le livre. Mais ce qui est intéressant, c'est que on retrouve cette même tendance chez notre plus proche cousin, le chimpanzé. Là, c'est un livre qui était écrit qui s'appelle « Politique chez les chimpanzés, puissance et sexe parmi les grands singes ». De la même façon, les chimpanzés essayent d'avoir le pouvoir social pour l'utiliser pour la reproduction et monopoliser les femelles du groupe. Donc voilà, c'est un chapitre qui introduit la reproduction dans l'histoire et qui permet d'avoir une vision un peu plus large. Et personnellement, je regrette que ce genre de choses ne soient pas enseignées à l'école pour mieux comprendre vraiment pourquoi l'origine des guerres, etc. Et quand on met la reproduction, on a une vision beaucoup plus exacte de ce qui se passe. Voilà, ça c'était le chapitre sur l'histoire darwinienne. Alors maintenant, la question politiquement incorrecte sur les différences entre hommes et femmes. Donc voilà, est-ce que... Alors évidemment, on va parler des différences cognitives, bon, des différences physiques, il y en a, ça c'est tout le monde est plus ou moins d'accord. Est-ce qu'il y a des différences génétiques ou est-ce que c'est une construction culturelle? Alors, quand on regarde les animaux, et il y a des nombreux animaux qui sont étudiés en détail, quand on regarde mâle et femelle, que ce soit un insecte, un mammifère, n'importe quel animal, on voit dans son cerveau, quand il en a un, des différences énormes entre mâle et femelle, de la morphologie, de la composition et du fonctionnement. Les cerveaux des hommes et des femmes sont complètement différents. Ah, mauvais bouton. Voilà. Et pour l'espèce humaine, évidemment, c'est pareil. La morphologie, la composition et le fonctionnement sont différents. Les gènes exprimés, tout ce que vous voudrez, il y a plein de différences dans les deux cerveaux. Deux cerveaux différents, forcément, ça fait des comportements différents, donc qui sont d'ordre génétique, mais qui sont modulés hormonalement et socialement, parce que les gènes modulent les hormones, et les événements sociaux modulent aussi les hormones. Donc, en gros, on a des différences génétiques modulées socialement. Mais ce qui est important, que si le but c'est une égalité sociale et politique, ce n'est pas en faisant abstraction de ces différences biologiques, en faisant comme si elles n'existaient pas, qu'on pourra avancer. Et à mon avis, au contraire, regardons ces différences pour mieux avoir une égalité qui, elle, est réalisable au niveau social et politique. Alors, il y a des différences, ça ne veut pas dire que l'homme ou la femme serait meilleur cognitivement. Suivant la fonction que l'on va prendre, on va trouver la femme qui est meilleure. La maîtrise du langage, les femmes sont meilleures. L'orientation, les hommes sont meilleurs. On injecte des hormones, mâle à une femme, et ben elle va mieux s'orienter. On fait le contraire, etc. C'est modulé hormonalement. Donc, suivant ce qu'on prend comme tâche, on va voir que l'un ou l'autre des sexes est meilleur que l'autre. Mais globalement, c'est deux stratégies différentes. Pourquoi ? Parce que les stratégies de reproduction des hommes et des femmes, des mâles et des femelles dans le monde animal, sont différents et ça a fait des stratégies différentes, des comportements différents. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à ces différences qu'il faut juste mieux réaliser pour, voilà, là c'est politiquement correct, mais C'est ce que je pense pour qu'on ait une meilleure égalité sociale qui n'est malheureusement pas faite, et politique. Donc voilà pour ce chapitre. Maintenant, l'homosexualité, autre thème politiquement incorrect. Donc c'est la même question, est-ce que c'est des différences génétiques entre homosexuels et hétérosexuels, ou est-ce que c'est une construction culturelle ? Alors on peut faire le parallèle entre une question qu'on pose souvent, on prend l'adolescent homosexuel, mâle, et en gros, est-ce qu'il découvre qu'il a une orientation homosexuelle, ou est-ce qu'il choisit son orientation ? Alors, c'est politiquement correct de dire qu'il choisit, mais en fait, vous interrogez les homosexuels, toutes les études montrent qu'il découvre. Bon, il découvre, ça veut dire que c'est génétique, ça peut être familial, etc. Donc, la question, existe-t-il des déterminants biologiques à l'homosexualité ? Alors, curieusement, il n'y a pas de modèle animaux. Il y a des comportements homosexuels chez les animaux, mais il n'y a pas de préférence. Les homosexuels en Occident, eh ben, ils ont des préférences homosexuelles. Donc, un comportement homosexuel, par exemple, vous mettez des gens en prison, il y aura des comportements homosexuels. Ça ne veut pas dire que ces gens sont homosexuels par préférence. Donc, il y a des comportements homosexuels chez les animaux, mais il n'y a pas de préférence. Donc, il n'y a pas d'équivalent de l'homosexuel occidental. Bon, donc, ça veut dire qu'il faudra trouver des explications propres à l'homme pour ce genre de situation. Alors, en gros, dans la littérature, si là je mets de 100% de l'ensemble des homosexuels mâles, on connaît deux déterminants. Alors là, je n'ai pas le temps de vous expliquer exactement ce que c'est, hein, tout est expliqué dans le livre. Donc, on a un facteur qui est biologique non génétique, en fonction du rang de naissance, donc quelque chose qui n'est pas héritable, et un deuxième facteur qui est probablement génétique. Donc, pour l'instant, on explique une faible fraction, donc 30%, mais c'est déjà mieux que rien, et tout le reste, il y a des facteurs, peut-être familiaux, sociaux, génétiques, encore biologiques, bien que les facteurs familiaux n'ont jamais été démontrés. Il n'y a aucune publication sur les facteurs familiaux pour l'homosexualité. Alors que Freud, etc., on pense habituellement que la famille, ou la mère en particulier, a une grande influence. Peut-être. Mais il n'y a aucune indication que ça puisse être le cas. Voilà. Donc c'était pour l'homosexualité. Dernier chapitre, l'écologie familiale. Alors, une famille, c'est quoi ? Bon, il faut là deux parents et un certain nombre d'enfants. Et il y a des enjeux. Alors, c'est quoi l'enjeu dans la famille, du point de vue de l'enfant ? C'est ce qu'on appelle l'investissement parental. Alors, c'est quoi l'investissement parental ? Eh bien, c'est tout ce que les parents vont amener en temps passé avec eux, en affection, en connaissance, etc., etc. Ça commence par la mère au moment de la gestation, l'allaitement. Et ça se termine quand les parents meurent. L'héritage, c'est encore une forme d'investissement parental. Cet investissement qui a lieu tout au long de la vie des parents et qui est un peu quelque chose d'unique dans le monde animal. Il n'y a pas d'équivalent à ce point-là, même dans les grands singes. C'est une ressource donc importante, et comme toute ressource importante, elle est limitée. Si elle est limitée, il va y avoir plein d'enjeux autour de cette ressource. Alors, comme il y a des enjeux, il y a des conflits. Alors, je vais vous présenter quelques-uns des conflits qui sont vraiment détaillés plus dans le livre. Alors, premier conflit, la stratégie de reproduction entre les deux parents peut diverger. Les parents peuvent se séparer. Et plutôt que de continuer à investir dans ces enfants-là, un des deux peut, en général c'est le père, peut aller investir dans d'autres enfants. Ça peut être la mère aussi. Un autre conflit, c'est l'incertitude de paternité. La mère, elle est sûre d'être la mère, le père, il n'est pas sûr. Donc, le père n'est pas sûr, et donc, forcément, cette incertitude va moduler l'investissement paternel. Alors, il y a des tas de mécanismes pour vérifier s'il est le père, au niveau de la ressemblance parent-enfant, il y a toute une série d'adaptations culturelles et génétiques sur ce phénomène-là, mais c'est un enjeu assez important qui explique pas mal de comportements. Donc voilà, je fais une présentation très succincte des conflits. Le dernier conflit, c'est quand il y a plusieurs enfants, ils se partagent une même ressource. Les enfants sont très inégaux entre eux. Lui est forcément plus intelligent, hein, s'il a 6 ans, l'autre a 4 ans, il est plus fort, etc. Donc il y a des inégalités dans la compétition. J'entre pas dans les détails, mais le rang de naissance est quelque chose, donc le rang de naissance est quelque chose qui joue pour la compétition dans la famille, mais ça explique des comportements adultes, par exemple la personnalité. Vous prenez deux aînés de deux familles différentes, forcément, et bien ils vont plus se ressembler en personnalité qu'un aîné et un cadet de la même famille. Donc la personnalité, c'est un peu une réponse à cette compétition dans la famille. Et il y a pas mal de comportements adultes, même d'altruisme ou plein de choses, qui sont expliquées en partie par le rang de naissance. Voilà, le QI des aînés est plus grand, par exemple. Il y a plein de différences, il y a des milliers d'articles là-dedans, sur ce phénomène-là. Et voilà, j'en fais un peu une synthèse. Donc c'est plutôt ce cadre de présentation qui permet d'étudier plein de choses qui étaient un peu disparates et de les mettre dans un contexte un peu clair et cohérent, et qui s'appelle l'écologie familiale. Donc, avec ce cadre théorique, on peut comprendre plusieurs choses. On peut comprendre la ménopause, on peut comprendre la crise d'adolescence, le complexe d'Oedipe, revoir un peu ce complexe très bizarre, etc. Voilà, donc j'ai fait le tour des différents chapitres. Si vous voulez plus de renseignements, j'ai fait un petit site web sur le livre avec avec quelques questions souvent posées. Mais j'espère que vous allez en poser directement. Et je vous remercie.